carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts s'intéresse aujourd'hui à une partie de la collection de peintures de Jean-Pierre Chongeux, académicien des sciences, amoureux de la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles. Jean-Pierre Chongeux a fait don d'une partie de sa collection personnelle au musée Bossuet de Meaux, et ce fut d'ailleurs l'objet d'une exposition intitulée « Les passions de l'âme », une série de tableaux qui a ensuite intégré la collection permanente du musée. Jean-Pierre Chongeux, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle pour nos auditeurs qu'avant d'être académicien, vous êtes neurobiologiste à la tête de la chaire des communications cellulaires au Collège de France et également à la tête de la direction du laboratoire de neurobiologie moléculaire à l'Institut Pasteur. Et vous avez d'ailleurs reçu de nombreux prix pour vos travaux. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de cette collection, puisque vous êtes non seulement neurobiologiste, mais également, et on l'aura compris, passionné de peinture du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors avant de parler plus en détail de cette collection, de cette exposition au musée de Meaux, peut-être allez-vous pouvoir nous dire comment est née cette passion commune, une passion commune avec votre épouse, je crois.
C'est une passion d'abord de collectionneur, qui est une motivation qui n'est pas propre à l'homme, d'ailleurs qu'on retrouve chez certaines espèces animales, mais qui se développe spécialement chez l'homme, comme une activité cognitive, d'exploration du monde, de connaissance de ce qui nous environne et aussi de collecte, de rassemblement d'œuvres ou d'objets qui, en général, s'inscrivent dans un thème particulier. Donc, ce comportement, je l'ai eu très tôt. Quand j'étais adolescent, je collectionnais des insectes. Je les ai collectionnés pendant longtemps et ça a été à l'origine de ma vocation de biologiste. Et puis, plus tard, quand j'étais élève à l'école normale supérieure, dans ma turne, j'avais déjà des tableaux très modestes, des icônes et aussi quelques gravures ou lithographies du XXe siècle. Donc, je m'intéressais beaucoup à l'art contemporain à l'époque. Je m'y intéresse toujours, mais je ne le collecte plus.
Vous êtes donc centralisé vers les peintures du XVIIe et XVIIIe.
Oui, ça est venu de la collecte d'icônes. J'en trouvais lors de voyages en Grèce. Je me suis vite lassé des icônes parce qu'elles sont finalement peintes d'une manière assez systématique, évoluent peu dans le temps. Et je me suis rendu compte qu'à l'hôtel Drouot, revenant des États-Unis où j'étais postdoctorant, on pouvait acquérir pour des sommes relativement modestes des tableaux originaux du XVIIe et XVIIIe siècle sur des thèmes qui, à l'époque, plaisaient peu, comme les thèmes religieux ou mythologiques, et des artistes peu connus, mais contemporains, par exemple, de Poussin, Charles Lebrun ou même François Boucher. Donc, avec des moyens modestes, vous parliez des prix tout à l'heure, bon, bah, ces prix m'ont servi, entre autres, à satisfaire mon désir de tableau.
À alimenter, comme ça, votre désir de tableau.
Mais c'est des moyens toujours modestes, donc je suis, en quelque sorte, parti en chasse pour œuvres de qualité que je puisse acquérir avec des moyens modestes.
Donc vous le disiez, des peintures mythologiques, des scènes d'histoire, donc de grands genres.
Oui, c'est-à-dire une peinture religieuse qui était évidemment très, très riche à l'époque puisque l'Église était source de financement pour beaucoup d'artistes, mais aussi mythologique et reprenant des thèmes ayant une signification civique ou morale. Et à cet égard, je me suis toujours intéressé au sens porté par ces œuvres et aussi par non seulement la composition, mais la composition des personnages et, en scène, une scénographie expressive, une mise en scène de personnages. Et vous savez que Poussin lui-même était très sensible à cet aspect-là des choses. Et
il faisait des représentations.
Des petites représentations en cire, enfin avec des personnages
des
qu'il composait dans cette scène. Donc il y a une volonté de composition scénique et aussi d'expression par le corps, comme on peut le voir d'ailleurs dans beaucoup de tableaux de cette exposition, ne serait-ce que une Madeleine en extase, la naissance de Jupiter ou l'hymen et l'amour. Donc, des compositions de personnages avec également des corps expressifs, en quelque sorte, avec aussi une expression des émotions sur les traits des visages. Et cela, on le doit non seulement à des artistes comme Poussin, mais aussi et surtout Lebrun, qui a établi une sorte de systématique de l'expression des émotions sur le visage, donc des passions de l'âme. Hein,
voilà, nous le titre de l'exposition,
le titre de l'exposition,
les passions
qui
de l'âme.
Est inspiré de l'ouvrage de Descartes, qui s'appelait Le traité de l'homme, et qui est une sorte, pour le neurobiologiste, de première cybernétique neuronale, si j'ose dire. Parce que le mot neurone, évidemment, n'a été créé qu'au 19e siècle, mais lui, il parlait des petits tuyaux, des nerfs, des muscles, des valves, et avait proposé une théorie où, comme vous le savez, la glande pinéale jouait un grand rôle. Bon, cette idée a été abandonnée depuis, mais il s'intéressait à ce qu'il appelait l'articulation de l'âme au corps, qui était, pour nous, neurobiologistes, les fonctions supérieures du cerveau et les réseaux de neurones sous-jacents. Donc, en fait, je considère que Descartes nous a proposé un premier traité de neurosciences cybernétiques. Et même si des amis philosophes ou neurobiologistes contesteront cette attribution, et je ne pense qu'il n'était pas dualiste dans le sens où on a bien voulu le laisser croire, avec une âme immatérielle et un corps matériel, et que en fait ce qu'il décrivait sous le terme âme était ce que nous appelons, nous, les fonctions du cerveau, fonctions de connaissance, fonctions de mémoire, émotions, raisonnement. Enfin, parce que le niveau de la raison, c'est effectivement un niveau d'organisation hiérarchique de notre cerveau. Et je pense que sous le mot âme, Descartes entendait justement ces fonctions supérieures. Donc, Lebrun, qui a écrit ce traité sur l'expression des émotions, s'est inspiré de Descartes. Et nous a proposé une systématique de l'expression des émotions avec, par exemple, les mouvements des sourcils qui correspondent à la hauteur de la glande pinéale, qui est, pour lui, était centrale donc sur la théorie de Descartes. Alors si les sourcils,
tableau.
Oui, bien sûr, si les sourcils sont orientés vers le haut ou vers le bas, on a affaire à des expressions d'émotions élevées, supérieures, nobles ou au contraire basses, comme la violence, la colère, etc. Donc on retrouve dans ces tableaux cette volonté, particulièrement dans cette crucifixion de Noël Coypel, qui était un chef-d'œuvre, qui est un tableau qui a figuré, semble-t-il, d'après Jean-Claude Boyer, qui a écrit le catalogue, un salon où se trouvent au pied du Christ des anges qui expriment leur tristesse. Et quand on regarde ces anges, on se rend compte à quel point Noël Coypel, qui est dans la suite de Lebrun, a repris à Lebrun et arrive à nous toucher, à nous émouvoir par cette expression de tristesse qui est très vive et très fortement ressentie lorsqu'on regarde le tableau.
Alors, un mot, vous avez fait plusieurs dons déjà au musée.
Depuis 83, nous avons...
Depuis 83, voilà, depuis
83,
23 ans.
Donc, j'ai eu d'ailleurs des prix de l'Académie, essentiellement. Et j'ai utilisé le montant de ces prix pour acheter un certain nombre de tableaux. Et je me suis dit qu'après tout, ça me paraissait légitime que je redonne à la communauté ces œuvres que j'avais acquises avec ces prix et qui sont dues, bien sûr, à tout le travail de groupe que j'ai pu faire avec mes collaborateurs à l'Institut Pasteur au Collège de France. Donc, nous avons fait, ma femme et moi, un premier don d'une dizaine de tableaux. Et puis, nous avons fait des dons successifs chaque année. Et là, à l'occasion de cette exposition qui a été faite sous l'impulsion de Anne Maillard, la conservatrice du musée de Meaux, c'est elle qui a voulu présenter cet ensemble. Nous avons fait une promesse de don, justement, qui sera échelonnée dans
14,
les années
pour
autres
tableaux
qui vont compléter l'ensemble, qui est de l'ordre d'une quarantaine de tableaux.
Déjà, oui.
Oui, qui sont tous ou presque, à part deux paysages, composés de tableaux d'histoire, puisque c'est le terme qui est utilisé, c'est la peinture d'histoire.
Peinture d'histoire.
Et qui vont depuis le maniérisme jusqu'au début du 19e siècle.
Alors, on va peut-être pouvoir parler plus en détail de quelques tableaux qui sont présentés.
Oui. D'abord, ce que je voudrais
exposition.
Dire, et ça c'est important pour Canal Academy, puisque cette collection a puisé ses sources intellectuelles et scientifiques, que l'on dit, dans les travaux d'académiciens éminents. Et le plus important d'entre eux, évidemment, Pierre Rosenberg.
Pierre Rosenberg, qui a signé la préface.
Qui a signé la préface et qui m'a toujours accompagné dans dans cette passion, à la fois avec une compréhension bienveillante, mais aussi une extraordinaire compétence scientifique dans ce domaine. Et j'ai été aussi au départ très encouragé par André Chastel et puis Jacques Tuillier et tous les jeunes, plus jeunes conservateurs qui, au Louvre ou ailleurs dans les musées de France, qui s'intéresse à cette période.
Donc vous-même acteur de ces passions de l'âme.
Donc je ne voudrais surtout pas oublier un collègue qui malheureusement nous a quittés, qui est Antoine Schnapper, qui a joué un rôle très important dans la découverte de Jean Jouvenet et de ses peintres du Trianon, qui vont donc constituer le cœur de cette exposition. Mmh. Alors celle-ci commence par, j'ai dit, le maniérisme, puis va avoir au centre ses artistes, et puis progressivement évoluer vers la peinture baroque et le néoclassicisme. Alors, commençons avec le maniérisme. Il y a un tableau que j'aime beaucoup, qui est du Cavalier d'Arpin, qui est le maître du Caravage, qui est un artiste de la fin du XVIe siècle italien, mais qui a été en contact avec l'école de Fontainebleau, qui, comme vous savez, a correspondu à un échange très vif entre peintres italiens et artistes français. D'abord, ce sont des Italiens qui sont venus en France avec le Rosso, le Primatis et puis Niccolo Della Batte. Et puis, progressivement, ce sont des artistes français qui ont pris la relève. Mm-hmm. Et le Cavalier d'Arpin, donc, est un artiste de cette époque, le maître du Caravage, comme je disais, et qui a peint Suzanne et les vieillards d'une manière étonnante. Parce que, comme vous savez, avec le maniérisme, c'est surtout la forme serpentine, c'est l'éclectisme des classiques qui sert à ces compositions. Et là, nous avons évidemment ça, mais aussi une composition géométrique très curieuse en étoiles, qui est rare.
En général, c'est triangulaire, non, c'est ça? Non, pas
c'est
forcément.
C'est pas si courant que ça. Là, oui, nous avons affaire à une composition en étoiles, mm-hmm. et où le triangle joue un rôle fondamental, avec dans l'axe vertical Suzanne. Mm-hmm. C'est évidemment pour les artistes le prétexte à peinture d'un joli corps féminin. Mais les deux vieillards sont là justement pour faire le contraste et aussi pour vanter à la fois la chasteté de Suzanne et la perversité en quelque sorte.
Mm-hmm.
Ces deux vieillards qui sont des juges. C'est une chose assez amusante. Mm-hmm. Et qui ont fait des avances à Suzanne qui a résisté. Et furieux, ils sont partis et ils ont fait une accusation mensongère en disant, d'après l'Ancien Testament, disant que Suzanne avait été vue avec un jeune homme. Donc elle n'était pas aussi chaste que cela. Suzanne a été condamnée et fort opportunément, le prophète Daniel se trouvait par là. Mm-hmm. Et a reçu la plainte de Suzanne et de ses proches et a entendu chacun de ces deux vieillards séparément. Et en leur disant, dans quelles circonstances avez-vous vu, où est-ce que pouvez-vous décrire la scène, etc.
Oui.
Puis s'est rendu compte qu'ils racontaient deux histoires différentes, évidemment, et il les a confondus. Et voilà, la chasse de Suzanne réhabilitée par le prophète Daniel.
Voilà.
Donc, vous voyez, c'est
une
histoire très, très morale et qui est un prétexte, en fait, à une magnifique peinture avec évidemment cette scène de nu dans un paysage. Mm-hmm. Et là,
elle est très lumineuse dans ce décor un peu sombre.
Absolument. À la fois un corps magnifique et en même temps un regard évidemment timide.
Bien sûr.
Qui s'apparente évidemment à d'autres œuvres du Tintoret ou d'Annibal Carrache qui ont traité le sujet avant le Cavalier d'Arpin, mais avec une personnalité qui est vraiment la sienne. Et il faut voir aussi ce paysage et cette fontaine qui évidemment anticipe, si on peut dire, vous savez, le nu romantique de Manet, l'Olympia, que sais-je.
Et justement, ce que disait Pierre Rosenberg, c'est que les tableaux qui sont présentés dans cette exposition sont des tableaux peints d'invention. C'est le mot qu'il précise.
C'est peut-être ce qu'il a essayé de trouver comme point commun dans ces diverses œuvres, dans le sens que là, on a réellement une composition de personnages singulière, et que si on va un peu plus loin, si vous voulez, on se trouve devant des scènes parfois très très surprenantes pour aujourd'hui, comme cette scène de Bond de Boulogne de la naissance de Jupiter.
Alors, second tableau.
Alors, ça, c'est le second tableau. Dans la première composition, on avait une composition étoilée, qui est rare,
oui.
Presque même cruciforme dans une certaine mesure. Et là, c'est une composition en spirale. une spirale qui part des corybantes qui se trouvent dans le paysage assez éloigné et qui convergent progressivement via cette spirale avec un fleuve, les bras barbus, des nymphes fort déshabillées. Et puis, je crois que c'est la nymphe Rhea qui a dans ses bras le tout jeune Jupiter. Donc, l'intérêt est absolument étonnant, très bucolique, avec ces personnages dans un paysage aquatique et très naturaliste, avec des petits canards qui se promènent.
Le décor a vraiment toute sa place. Hein. Ce n'est pas un décor pour de remplissage. C'est vraiment
Il fait le décor s'intègre absolument à la composition.
Avec à chaque fois, alors je ne sais pas si c'est le hasard, mais les rouges, les bleus sont vraiment...
Oui, c'est-à-dire que ça, on retombe dans des couleurs qui sont fréquentes à l'époque, assez crues en quelque sorte, hein, de rouge, de bleu, de jaune, qui étaient encore, je dirais, plus criardes au XVIe siècle. Rappelez-vous la chapelle Sixtine nettoyée, où tout le monde a crié au scandale, ne reconnaissant pas Michel-Ange avec ce bariolage coloré, mais c'était... Au contraire, une joie. Et personnellement, j'adore la couleur. Donc, pour moi, c'est un plaisir que d'avoir ces couleurs qui sont si vives, froides, chaudes, et qui illuminent en quelque sorte le tableau. Et là, dans ce Jupiter confié aux nymphes, ce qui amuse, c'est de voir tout l'intérêt que ces nymphes portent au petit bébé qui est au centre de la composition. On a rarement, à part les scènes de nativité, bien sûr, où c'est l'enfant Jésus qui se trouve
au centre du tableau,
dans les bras de sa mère. Mais là, c'était en quelque sorte une nativité païenne et très féminine, hein, puisque ce sont autour du petit bébé Jupiter, on a cinq nymphes pour...
Donc finalement, c'est de la peinture de grand genre, mais à la limite.
Il y a toujours dans le grand genre une signification. Vous voyez, donc on va passer peut-être de ce tableau, le prochain qui sera une crucifixion. Vous voyez, donc dans un cas, c'est une atmosphère détendue, souriante, très vivante. C'est un nouveau-né qui, comme vous savez, est protégé de la voracité de Saturne, son père, qui avalait déjà un pavé. À la place du nouveau-né, pour éviter qu'ils n'entendent les vagissements du petit Jupiter. Il y a les corybantes qui sont là, curettes et les corybantes qui chantent et qui font autant de bruit possible pour éviter que Saturne n'entende les vagissements. Donc il y a de l'humour, il y a une fraîcheur,
La
vie en quelque sorte. Il y a une extraordinaire vitalité dans ce tableau et en même temps on est très près de la peinture de italienne, entre autres bolognaise ou florentine comme Carlo Cignani par exemple, et cette inspiration d'ailleurs très fraîche et commune à beaucoup d'artistes dits du Trianon, de marbre, avec Louis de Boulogne, Jean Jouvenet, Noël Coypel.
Notre prochain tableau, Noël Coypel. Alors, comme vous le dites, comme vous le disiez juste à l'instant, c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus.
Alors là, c'est un autre sensibilité. C'est évidemment un Christ, un peu janséniste, avec les bras très, très élevés.
Oui.
Hein.
Oui, tout à fait.
Et aux pieds, donc, des anges. Alors, sur le tableau qui nous intéresse, on en trouve cinq. Et deux principaux, de part et d'autre, des pieds du Christ, pleurent dans les draps qui sont là, essuient leurs larmes, alors que dans un cas, les mains sont ouvertes en signe de déploration et la tête penchée sur le côté, et dans l'autre, ramenée sous le visage en croix, sous forme de prière en quelque sorte.
Les mains jointes.
Mains jointes, exactement. Et donc, il y a à la fois un recueillement et un sentiment de très grande de tristesse qui accompagne ce Christ, les yeux vers le ciel.
Vers le ciel, oui.
Et ce qui frappe
surtout... Implorant le ciel.
Absolument,
hein.
Oui. Ce qui frappe surtout dans ce tableau, c'est ce rapport de ton. Vous voyez, autant dans le tableau précédent de Jupiter, on avait des couleurs vives, c'était la fraîcheur.
Qui était le reflet de cette vie, justement.
Là, on a au fond, une tragédie, puisque c'est un ciel d'orage. Et en même temps, toutes les couleurs sont brunes. Vous voyez, ou violacées, très rares chez des artistes de cette époque, ce qui veut dire que Noël Coypel a réellement conçu ce Christ aux anges, à la fois sur le plan graphique et sur le plan du rapport des couleurs, pour exprimer cette tragédie fondamentalement chrétienne, en quelque sorte, du crucifix, de la crucifixion.
Donc là, je suppose que c'était une commande pour une église.
C'est l'idée peut-être qu'il s'agirait éventuellement d'une commande royale ou d'une commande. Ce tableau aurait, semble-t-il, c'est toujours très difficile d'avoir une documentation très précise, et éventuellement été présenté au salon. Comme le tableau précédent. Donc, on aurait deux tableaux de salon. Il a été précédé par, c'est d'ailleurs dans le catalogue, et là, c'est rédigé par Jean-Claude Boyer et publié par Odile Jacob. Dans ce catalogue, on voit le tableau qui a précédé de Charles Lebrun. On voit donc bien qu'il s'agit d'un émule de Charles Lebrun, d'un de ses meilleurs élèves, je considère. Je trouve personnellement le tableau de Lebrun plus encombré, ce crucifié aux anges qui se trouve au musée du Louvre.
Donc celui de Noël Coypel plus réussi que celui de Lebrun.
Pour moi, je ne peux pas dire plus réussi.
Bien sûr,
pas mettre
à décerner
des prix ou des... ou des classements au concours, mais je dirais que ce Christ aux anges, par la simplicité de sa composition et justement
le fait que ce soit épuré, il y a
recherche,
plus de force.
Je trouve beaucoup plus puissant que le tableau de Lebrun. D'ailleurs, ils ont été présentés côte à côte à une exposition qui a eu lieu au musée de la musique il y a quelques années sur justement l'expression des émotions ou l'expression des passions. Et je dois dire que le tableau de Noël Coypel tenait bien à côté du maître. Ce qui veut dire qu'après tout, ce n'est pas un petit maître, mais aussi un grand maître qui était jusque-là peu connu du grand public.
Alors, le tableau peut-être qui présente...
Fait l'affiche.
Qui fait l'affiche de l'exposition Les Passions de l'âme.
Ça, c'est la mort de Païtus.
La mort de Païtus, Antoine Rivals.
Oui, alors Antoine Rivals, c'est un artiste qui est peu connu, qui est un artiste toulousain, qu'on redécouvre. Vous voyez que...
Les couleurs sont magnifiques.
Ce genre de collection, évidemment, on est amené, là encore... compte tenu de la modicité des moyens. Vous voyez, je peux pas imaginer pouvoir acquérir un Charles Lebrun authentique ou un Nicolas Poussin. Alors là, n'en parlons pas. Il y en a, je sais pas combien il en reste dans les collections privées, mais extrêmement peu. Ou même un Philippe de Champaigne. Donc, il faut s'efforcer de trouver des artistes de talent qui sont encore peu connus. Malheureusement, ils vont être connus maintenant.
Bien sûr. En tout cas, c'est le cas d'Antoine Rivals.
Qui est un artiste toulousain. S'inspire à la fois de la grande peinture italienne, on peut penser au Guerchin, à Reni, mais là, dans le début du XVIIIe siècle, la fin du XVIIe, début du XVIIIe, donc la même époque un peu que Coypel, les peintres de Louis XIV. Mais alors, il voit très grand, parce que c'est des personnages, il y a deux personnages dans la composition. Donc, ce Païtus en train de s'enfoncer un glaive, et en dessous de lui, une femme qui est son épouse, qui s'appelait Aria, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui, elle aussi, est en train de mourir. Donc, vous voyez, c'est une scène tragique. De l'histoire romaine.
Et illuminée, les deux corps illuminés, comme ça,
alors,
il y a un rayon de soleil.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est une situation tragique, puisque Païtus est en train de se suicider et Aria semble déjà expirer. Mm-hmm. Avec comme thème, Païtus qui, sous le règne de l'empereur Claude, avait été impliqué dans une conspiration, a été condamné à la mort. Et
après cette condamnation,
Se suicider. Il reçoit l'ordre, en fait, de se suicider. Et c'est sa femme, Aria, qui lui montre la voie. Se tuant d'abord elle et en lui disant « pas été non dolette », ça veut dire « comme c'est doux de mourir. Enfin, ça ne fait pas souffrir de voir la mort arriver. Mm-hmm. Et donc,
c'est elle lui a montré le chemin.
Elle montre le chemin parfaitement pour le suicide de son mari. Donc, vous voyez, c'est une scène où la femme joue un rôle important. Hein. Nous avions toutes ces nymphes autour de Jupiter. Nous avons eu Suzanne. Et puis là, c'est Aria qui... Et disons des deux personnages centrales, en sens que on a ce très beau corps féminin, la tête penchée.
Donc c'est ce que vous avez choisi pour représenter, pour présenter cette exposition.
Pour représenter l'exposition, oui, parce que là on est en pleine passion et en même temps la grande noblesse de sentiment, mm-hmm. si vous voulez, puisque c'est Aria qui est la première en fait à se sacrifier et à se donner en exemple à son mari. Dans toute cette exposition, il y a des tableaux ayant des significations un peu semblables, enfin pas toutes. Aussi tragique, fort heureusement, mais avec un partage.
Oui, on vient de le voir entre les nymphes et puis là, Aria, effectivement, on touche à plusieurs sentiments.
Oui, plusieurs
joyeux, moins
contexte,
joyeux.
Émotions, mm-hmm. Avec toujours la femme présente et même dans le dernier ou un des derniers tableaux de l'exposition, que l'hymen et l'amour de Regnault, où on a là deux personnages masculins l'amitié qui les réunit, la coupe de l'amitié, qui est une femme et de corps masculin un peu efféminé d'ailleurs,
oui, oui.
Avec l'idée que l'hymen qui a les ailes liées entre elles pour pas qu'ils s'envolent et reste à côté de l'amour avec son arc et que l'on voit en face.
C'est particulier parce qu'on dirait que cette peinture, on dirait que c'est un petit moment comme ça volé.
Oui, absolument. Et avec ce charme très néoclassique de Jean-Baptiste Regnault et cette amitié qui est un personnage que l'on voit à contre-jour, en sombre, qui met en valeur justement ces deux adolescents ailés, nus et ailés. Et l'hymen étant évidemment le personnage central avec sa couronne de fleurs et encore une fois ses ailes liées entre elles.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Changeux de nous avoir fait une présentation de cette exposition issue de votre collection personnelle et intitulée « Les passions de l'âme, peinture du XVIIe et du XVIIIe siècle ». Ces tableaux étaient présentés lors d'une exposition en 2006 et ils ont désormais intégré le musée Bossuet de Meaux. Pour en savoir plus, nous vous conseillons le catalogue de l'exposition « Les passions de l'âme » publié en 2006 aux éditions Odile Jacob. Merci Jean-Pierre Changeux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.